commencé, peut-être que tu peux expliquer ton parcours.
Mon parcours, j'ai commencé par une sensibilité déjà environnementale qui était présente depuis toute petite, je dirais. J'étais orientée vers la psycho, alors comme tout le monde, au départ quand tu veux faire psycho, c'est plus la clinique, etc. Et puis rapidement, j'ai découvert la psychologie sociale, donc qui est, elle va étudier le groupe d'individus et en gros ce que ferait la plupart des individus dans un contexte donné. Et en DEA, j'ai commencé à travailler sur la thématique du covoiturage. Je m'intéressais à savoir pourquoi cette pratique, on est en 2007, donc c'est pas encore aussi connu qu'aujourd'hui, mais pourquoi cette pratique, elle était si difficile, qu'est-ce qui différait par rapport aux autres pratiques environnementales qui, elles, étaient un peu plus assises, je dirais, dans les comportements des individus, notamment le cas du tri qui commençait déjà à être bien ancré dans les mentalités. Et donc du coup, j'essayais de voir ce qui influençait un peu plus la mise en acte du covoiturage. Comment est-ce qu'on arrivait de « j'ai pas envie de le faire » à finalement une inscription sur le site internet de covoiturage et la mise en œuvre petit à petit de la pratique. Et j'ai poursuivi cette réflexion dans une thèse de doctorat. Là, j'ai commencé à intégrer la psychologie environnementale dans mon travail de thèse, chose que j'avais pas forcément fait en DEA, parce que j'étais vraiment restée sur un travail exploratoire et sur tout ce que je connaissais de la psychologie sociale.
Donc, quelle est la spécificité de la psychologie environnementale par rapport aux autres types de psychologie sociale ?
Elle part d'un objet, la psychologie environnementale. C'est-à-dire que, par exemple, on va travailler sur les risques environnementaux. On ne travaille pas sur le comportement, l'influence. On travaille d'abord sur la thématique, les risques. Et après, à ça, on va associer l'ensemble des disciplines, déjà connexes à ça. Pour faire de la psychologie environnementale, on a besoin d'aller voir en géographie, d'aller voir en anthropologie, d'aller voir parfois dans les sciences dures, Et donc, du coup, c'est une science qui part vraiment d'un objet de terrain, comme le changement climatique, comme la mobilité durable. Et on va étudier, par exemple, tout ce qui est les phénomènes d'appropriation, d'identité de lieu. Ça, c'est des théories qui sont plus du côté de la psychologie environnementale, psychologie sociale, puisqu'on va plus s'intéresser au processus et à la cognition, Moi, je fais beaucoup de psychologie appliquée. J'ai travaillé pour le CEPRI, le Centre européen de prévention du risque d'inondation, qui me demandait à l'époque de les aider dans un projet de recherche à créer une formation à l'usage des agents de la ville d'Orléans qui résidaient en zone inondable. Parce que la ville d'Orléans s'est aperçue que la moitié de ses agents, donc 650 agents, donc c'est pas rien, résider en zone inondable. Ce qui fait que, quand on est agent de la mairie, on est obligé à un certain moment, si en cas de crue par exemple, de revenir travailler pour aider la population. Sauf que s'il y a 650 agents qui sont impactés par l'inondation, vous comprenez bien que c'est un problème. Donc en fait, on essayait construire une formation pour qu'ils se prémunissent du risque à l'échelle individuelle Et donc du coup, pour ça, j'ai fait d'abord des entretiens avec certains agents pour voir un peu la connaissance qu'ils avaient du risque. C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient une bonne connaissance du risque dans lequel ils étaient ? Est-ce qu'ils le connaissaient seulement, leur situation de zone inondable, etc., pour mieux adapter les actions de formation. Suite à ces entretiens qui nous ont éclairés, on a construit des actions de formation. On a vraiment cherché à la rendre très visuelle, c'est-à-dire à les rendre acteurs tout le temps dans des mini-ateliers. On avait fait une échelle de crue sur des bâtiments dans lesquels ils travaillaient. Et on a simulé, graphiquement, la montée des eaux maximale de la Loire, Et donc, chacun devait prendre son bâtiment communal où il travaillait et indiquer sur une échelle qui était plaquée au mur, la hauteur d'eau auquel ce bâtiment serait soumis. Et en fait, c'était assez flagrant parce que quand les gens ont commencé à prendre en fait les chaises pour mettre les repères de crues en fait, et que ça commençait à être vraiment enfin à 3-4 mètres, là il y a eu une prise de conscience. Et en fait, c'était très visuel, et je pense que c'est ça qui a aidé. Ils se sont dit, ah ouais, quand même, ça on n'aurait pas pu le faire, par exemple, pour les biens individuels, parce que devant le groupe, c'est trop impliquant, en fait. Mais sur les bâtiments communaux, ça a vraiment bien fonctionné. Et donc, du coup, ça, c'est une illustration de l'application de la psychologie environnementale, parce que vraiment, en amont, on a réfléchi à la perception du risque auprès des populations, l'adaptation comportementale, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui se faisait avant et qu'est-ce qu'ils font après cette formation, parce qu'on l'a évalué aussi. Toutes ces questions-là, comment est-ce que finalement je me sens capable de me prémunir de ce risque ou pas. En fait, on utilise des mauvais canaux de communication aujourd'hui sur le changement climatique. La communication, notamment sur le risque, et le changement climatique est un risque. Ça fait partie du champ des risques. Il ne faut pas partir du global, en fait, pour expliquer aux gens. Ou il ne faut pas partir de la culpabilisation.
Alors, en fait, quels seraient les outils de la psychologie environnementale pour mieux sensibiliser les citoyens au changement climatique, par exemple ?
Et je dirais, dans un premier temps, en fait, c'est au-delà de la psychologie environnementale, pour le coup, c'est de repartir du local. C'est-à-dire... Et là, pour le coup, ça fait référence à une théorie plus de la psychologie sociale, mais de l'implication personnelle, en fait. L'implication personnelle, enfin, je crois que c'était Rouquette, mais ça a été présenté par plein d'autres chercheurs. L'implication personnelle, c'est à quel point est-ce que je suis proche de la cible, en tout cas, ou est-ce que je suis proche, je suis impliquée dans le sujet, etc. Et plus, enfin, sans surprise, je dirais, mais il se trouve qu'on l'a montré en psychologie sociale, plus on est proche de l'objet, plus on est sensibilisé, plus on adapte son comportement, en fait. Et aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, bah, écoutez, et on voit les résultats d'ailleurs, enfin, hein, faisons vite, ça chauffe, regardez, les ours polaires sont en train de se noyer parce que la banquise se fond, soit, enfin, je veux dire, ça affecte les gens, mais ça les affecte pas personnellement. Il n'y a pas d'implication personnelle de créer. Et donc, du coup, en fait, il y a une distance, mais une distance physique qui se crée. Et donc, la distance physique, elle crée la distance psychologique. Alors que si vous partez du local, c'est-à-dire, par exemple, moi, je reprends souvent cet exemple parce que ça existe beaucoup, les inondations, voilà, qui sont une conséquence quand même forte du changement climatique. Et puis, notamment, par exemple, les espèces d'herbes qui poussent dans les lacs. Admettons, vous avez une collectivité, et c'est le cas dans plusieurs collectivités, vous avez une étendue d'eau, et à cause du changement climatique, il y a une invasion d'insectes, de plantes, de tout ce que vous voulez, qui empêche justement de pouvoir profiter de cet espace. Ben là, vous allez les toucher. Là, vous allez pouvoir communiquer et dire, voilà, on part d'un état de fait, ça vous touche parce que, en fait, vous essayez de trouver une solution. Trouvons une solution à votre problème ensemble. Et en fait, là, en partant de leur problème, et non plus de la grande cause environnementale du changement climatique, je veux dire, on parle de leur problème pour les amener vers, vous voyez, ça se passe comme ça parce que ça. Et donc, du coup, juste derrière cet éveil émotionnel, il faudrait proposer des solutions. Proposer des solutions à titre individuel, à titre collectif, peu importe. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que moi, je peux faire dans ce système-là ? Qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle pour améliorer qu'est-ce qui m'est donné de faire dans ce contexte-là. Et c'est des petites choses pour le coup, et c'est pas, ça leur paraît pas insurmontable, et ça va justement réduire cette peur et donc du coup ce rejet. Et c'est ce qui est fait très bien, je trouve, dans le film, le documentaire Demain, en fait, parce qu'il y a vraiment un message plutôt grave, hein, parce qu'il faut être grave, mais suffisamment pour éveiller cette conscience, mais derrière montrer que c'est possible. Parce que si l'individu il voit que c'est pas possible, il va arrêter. Enfin voilà, ça me tient à cœur parce que je trouve qu'aujourd'hui on communique très mal là-dessus.